Le souper de Kéror par Paul Féval, père. Légende. Enregistré par Christiane Johan. Le petit feu se consumait lentement dans l'âtre énorme. Sous le manteau de la cheminée, Goth filait. Goth avait une grande figure ridée, autour de laquelle tombaient les mèches raides de ses cheveux blancs. Ses yeux éteints dormaient dans leurs orbites caves. Des poils rares, longs et rudes, se hérissaient sur sa lèvre. Goth tremblait des deux mains et de la tête. On disait que Goth avait bien 100 ans. Mais elle chantait encore, en tournant son rouet plus vieux qu'elle, la chanson Guillorette « Les jeunes gens de Saint-Vincent ont chaque une belle à la ville ». La chanson a 60 couplets, comme toutes les chansons bien faites. Goth allait jusqu'au bout quand elle avait bu un verre d'eau-de-vie. 1. La marmite chauffait sur les deux pauvres tisons noircis. Il y avait veillé à la ferme. Le père et la mère étaient assis gravement sur leur fauteuil de bois. Le grand-père et la grand-mère avaient passé de vie à trépas depuis des années. Goth était la bisaïeule. Voisins et voisines entouraient la cheminée. Ceux qui n'avaient pu avoir de billot restaient accroupis sur la terre battue et ne s'en plaignaient point. « Goth, bonne mère Goth !» disaient les jeunes gars et les jeunes filles. « Ne nous conterez-vous point une histoire cette nuit ?» Goth branlait la tête en écoutant le cri aigre de son rouet. « J'en savais autrefois des histoires, » murmura-t-elle, « autant qu'il y a 2 jours dans l'année. Mais j'avais de bons bras aussi, et maintenant la poignée de mon rouet fatigue mes vieux os. Ma mémoire s'en est allée avec la force de mes bras. Garçaille, l'âge vient où l'on ne sait plus d'histoire. » Les jeunes gens et les jeunes filles resserrèrent leur cercle, car c'était là le préambule ordinaire. La mère Goth était comme ces virtuoses qui aiment à se faire prier. Quand elle disait non, c'est que l'affaire était conclue. Donc, l'assistance prêta l'oreille, depuis le père et la mère jusqu'aux petits-enfants, en passant par les voisins et voisines de tout âge. Vous auriez été loin dans le Morbihan avant de trouver une femme ou un homme qui sût, comme la vieille Goth, les histoires du temps passé. Mais on avait beau prêter l'oreille, la vieille femme se taisait, laissant parler la voix aiguë et monotone de son rouet. Le cercle à vide commençait à désespérer lorsque l'aïeul, redressant tout à coup sa taille courbée, lâcha son fuseau qui s'en alla pirouettant sur le sol. « N'est-ce pas aujourd'hui le 3e jour de mai ? » demanda-t-elle. « Oui, bonne mère, » lui fut-il répondu. « Le 3e jour de mai est la fête des âmes. » murmura la centenaire qui croisa ses mains sur ses genoux. Le rouet ne grinçait plus et c'était merveille, car le rouet de la mère Goth avait coutume de grincer depuis l'aube jusqu'à l'heure du coucher. « Catherine, ma petite fille, » dit-elle encore après un silence, « ouvre les volets que je vois le temps. » Les sabots de la petite Catherine tapotèrent le sol dur, la barre qui retenait les volets massifs bascula et l'on put voir la campagne éclairée par un radieux clair de lune. C'était un paysage étrange auquel la fenêtre cintrée et lézardée en plusieurs endroits faisait un cadre. On apercevait au loin des collines nues où perçait sous la bruyère la tête blanche du roc. Plus près, c'étaient ces chênes émondés à qui la taille périodique prête des formes monstrueuses et qui peuplent la nuit bretonne de leurs troncs difformes, cagneux et tout noirs. Enfin, au premier plan, à 200 ou 300 pas de la ferme, c'était une tour en ruine, mais déchiquetée comme à plaisir, et que les rayons de la lune perçaient d'outre en outre. Des dentelles de lierre se découpaient alentour et tranchaient sur le bleu argenté du ciel. Une nuée d'oiseaux nocturnes, effrayés par le bruit de la fenêtre, voltait au-dessus des créneaux désemparés. La vieille poussa un soupir et chercha le chapelet qui pendait à sa ceinture. « C'est la fête des âmes !» répéta-t-elle, et ce fut ce jour-là qu'il trépassa. « Il s'appelait Jean Kéror, » reprit-elle en affermissant sa voix. « Il était comte, et sous le portail de la tour vous pourriez voir encore l'écusson sculpté dans la pierre, avec son lion qui lève une griffe menaçante, et sa couronne entourée de perles. Il était puissant. Tout ce que votre œil aperçoit, tout ce que la lune éclaire, la vallée et la montagne, c'était son domaine. » Son père et sa mère étaient de bons seigneurs qui craignaient Dieu. Ils ne ressemblaient point à son père ni à sa mère. Écoutez, derrière cette tour, il y avait un grand château qui recevait le jour par 300 fenêtres. dont les vitraux brillaient comme ceux d'une cathédrale. Quand Jean Kerhor voulait avoir des convives, 12 serviteurs montaient à cheval, et le soir, la salle de ses festins était pleine. « J'ai vu cela, Garçaille, et j'ai ouï le cor au matin, quand il partait pour chasser le cerf dans la grande forêt de Pimpon. Je suis resté bien longtemps sur la terre. Jamais je n'ai vu d'homme si beau que Jean Kerhor le comte. Plus d'une noble demoiselle se mourait de tristesse pour l'amour de lui. Mais bienheureuses furent celles qui ne daigna point distinguer au milieu de leurs compagnes. C'était un cœur de fer. Son amour ressemblait à la foudre qui brûle et qui tue. Vassales et nobles filles tombaient sous son regard comme les pauvres fleurs d'été qui s'inclinent sous le brûlant soleil. Ah, je vous le dis, bien des tombes furent creusées autour de l'église. On mena bien des deuils avec le drap blanc semé de pleurs. Et qu'elles étaient belles! Madeleine, la fille du garde, Anna, l'enfant chéri du chevalier, Louise, la petite paysanne, Marguerite, la grande demoiselle qui avait une dot de princesse. Elles vinrent toutes au château, celles-là et bien d'autres, dont j'ai oublié les noms. Elles vinrent de leur plein gré, car il avait un charme dans les yeux, et quand il regardait une pauvre fille, la pauvre fille subjuguée courait après lui, comme si elle eût été son ombre. Elles vinrent, Madeleine la première, puis Anna, puis Louise, puis Marguerite, puis toutes les autres. Et quand elles quittèrent le manoir, ce fut pour descendre en terre. Toutes. Il était foulé le sentier qui conduisait du château au cimetière, et le comte Jean Kerhor donnait de grands festins où il invitait toute la contrée. C'était des chants joyeux, c'était une ivresse folle. Ceux qui passaient la nuit dans la vallée voyaient de loin le château qui brillait comme un incendie. L'orgie durait depuis le soir jusqu'au matin et empêchait les pauvres mortes de dormir au fond de leur cercueil. 2. Il y avait au bourg de Locmaria une fillette vouée à la Vierge Sainte et qui s'appelait Marie. Elle avait pour père un pauvre gentilhomme qui labourait son champ comme un pauvre paysan. Marie avait la figure d'un ange. Quand elle s'agenouillait sur la pierre de l'église et que ses beaux yeux bleus regardaient le ciel, vous auriez dit que l'auréole des prédestinés descendait sur son front. Marie allait avoir 16 ans. Son père l'aimait tant qu'il avait les larmes aux yeux chaque fois qu'il prononçait son nom. C'était tout ce qu'il avait, ce vieil homme. Sa femme était morte, et les gens de justice lui avaient pris son héritage. Mais n'était-ce pas assez d'avoir Marie, le beau trésor, l'ange de douceur et de piété? Le gentilhomme n'allait à la tombe de sa femme défunte que pour lui parler de Marie. C'était pour Marie seulement que le gentilhomme regrettait sa fortune perdue, et quand Marie lui donnait son front à baiser après le travail du jour, vous n'eussiez point trouvé dans tout le pays de Bretagne un père plus content que le pauvre gentilhomme. Or Jean Kerhor, le comte, en était à sa 12e femme, qui mourut comme les autres, à force de pleurer. Jean Kerhor ne portait pas longtemps le deuil de ses épouses. Le lendemain du jour où la dernière avait rendu l'âme, Jean Kerhor vit Marie, la fille du pauvre gentilhomme. C'était au champ, derrière la lisière du bois de Locmaria, dans la plaine où les esprits ont aligné toutes ces grandes pierres. Marie allait porter le repas de son père qui travaillait sur ses guérets. Quand elle aperçut Kerhor sur son grand cheval noir, elle sentit comme une haleine de feu qui lui soufflait au visage. Son cœur eut le vertige, ses jambes tremblèrent. Elle fut obligée, la pauvre fillette, de s'asseoir sur l'herbe du fossé. Kerhor descendit de cheval et s'en vint se mettre auprès d'elle. Il lui dit « Je suis le seigneur de ce beau château dont les fenêtres reluisent là-bas aux rayons du soleil. Si tu le veux, jeune fille, tu seras dame de Kerhor et maîtresse de ce manoir. 1000 vassaux obéiront à tes moindres caprices, et moi je t'aimerai. » Jusqu'à ce dernier mot, Marie était restée muette. À ce dernier mot, elle releva ses yeux humides, et Jean Kerhor, le comte, la prit entre ses bras. Le charme avait opéré. Marie était esclave, comme toutes celles qui dormaient déjà sous la terre consacrée. « Monseigneur, dit-elle pourtant, car elle aimait bien son vieux père, je vous demande un jour pour réfléchir. » Kerhor remonta sur son grand cheval noir en disant « Demain, à pareille heure, je viendrai te chercher, ma fiancée. » 3. Marie était au château. Marie était seule et bien triste dans cette chambre où Madeleine et Anna, Louise, Marguerite et les autres avaient rendu le dernier soupir. Durant la dernière nuit qu'elle avait passée chez son père, elle avait vu en songe des ombres pâles qui s'étaient agenouillées autour de son lit en murmurant « Prends garde !» Sans doute les ombres de Marguerite et de Louise, d'Anna et de Madeleine. Mais Marie n'écouta point la voix des mortes. Elle dit adieu au pauvre gentilhomme qui n'avait qu'elle en ce monde. Elle vint au château de Cahors parce que le mal d'amour l'avait prise. Une semaine ne s'était pas encore écoulée que déjà ses beaux yeux étaient creusés par les larmes. Cahors la dédaignait, Cahors l'outrageait et la frappait. Elle aimait la douce martyre, elle baisait la main de son bourreau. Un jour, on vint lui dire que son père était mort, désespéré. Elle passa ce jour-là agenouillée dans la poussière de la chapelle où personne ne venait plus adorer Dieu. Mais quand la trompe annonça le retour de la chasse, elle courut au-devant de Cahors. Cahors la repoussa parce qu'il avait vu ce jour-là même une belle fille au bourg de Glénan. Il lui dit « Te voilà vieille, tu n'as plus de beauté. Agenouille-toi là devant moi pour délacer les lanières de mes guêtres. » C'était le premier jour de mai. Marie obéit à son seigneur qui la montra au doigt à ses vassaux et à ses piqueurs en disant « Voyez, cette femme est une servante. » Marie se redressa et répondit « Comme vous êtes, mon seigneur, j'ai délacé les lanières de vos guêtres. Il n'y a qu'une chose qui déshonore la fille d'un gentilhomme, c'est de tirer les bottes de son époux. » « Vous savez cela, enfant, » dit en s'interrompant la vieille femme d'un air important et sérieux. « Délacer les guêtres, ce n'est rien, mais tirer les bottes d'un homme, voilà ce qu'une bretonne ne fait jamais. » La partie féminine de l'assemblée approuva gravement du bonnet. 4. La nuit du troisième jour de mai, reprit la vieille femme, les âmes de celles qui sont mortes soulèvent la pierre des tombes et reviennent visiter notre monde. C'était le troisième jour de mai, vers le soir, et Jean Cahors, le comte, avait fait préparer un grand festin. Il songeait toujours aux dernières paroles de sa femme, et il était impatient de voir à sa place au château la belle-fille du bourg de Glénan. Donc, quand tous les convives furent réunis dans la grande salle, il fit appeler Marie et lui dit « Par le pouvoir que j'ai sur toi, ma femme, je t'ordonne de me déboter. » Il levait sa jambe chaussée de lourdes bottes, aux talons desquelles s'attachaient des éperons d'acier. Marie regarda tous ces seigneurs qui l'entouraient et ne vit point de pitié sur leur visage, déjà rougi par le vin. Elle cacha sa tête entre ses belles mains blanches et se prit à pleurer. « Mon père, murmura-t-elle, ayez pitié de moi. » « Allons, fit Cahors en fronçant le sourcil. « Je suis le maître dans ma maison, et ceux qui me désobéissent sont punis de mort. » Marie découvrit son visage baigné de larmes. « Tuez-moi donc, mon seigneur, » murmura-t-elle, « car je suis noble et je suis bretonne. Je ne peux pas vous obéir. » « Enfant, » s'interrompit ici la vieille femme, dont les joues pâles se colorèrent, « Cahors était un démon. » Cahors tendit sa botte à un valet qui le déchaussa. Puis, la saisissant à deux mains, Cahors asséna un coup violent sur la tête de Marie, qui tomba, la tempe percée par l'éperon d'acier. Elle eut le temps de murmurer encore « Mon père, mon père !» Puis, elle ne respira plus. Tous ceux qui étaient là purent voir une tête pâle se dresser derrière Cahors, une tête de vieillard, avec une longue barbe blanche. Tous ceux qui étaient là reconnurent le pauvre gentilhomme, père de Marie, qui venait à l'appel de son enfant. Les deux mains du vieillard semblèrent peser sur le crâne de Cahors, et Cahors, si robuste, le roi des chasseurs et des guerriers, s'affaissa sur lui-même, frappé d'un coup de sang. Il était mort auprès de sa femme morte. 5. La nuit était venue, la nuit du troisième jour de mai. Elle planait dans les airs, autour de leur ancienne demeure, les âmes d'Anna et de Madeleine, de Louise et de Marguerite. Leurs gémissants murmures emplissaient les ténèbres, et ces murmures disaient le nom de Cahors, leur implacable bourreau. Tout à coup, une autre âme passa au milieu d'elles, blanche comme une colombe sans tache. Elles la saluèrent du nom de sœur. C'était l'âme de Marie qui s'en allait au ciel. Et tandis qu'elle l'arrêtait un instant dans son vol, Un nuage noir passa au-dessus du château, et la foudre éclata, rasant l'antique demeure. Parmi les flammes et le grand tumulte, une âme, plus noire que le visage de Satan, s'élança hors du château. C'était Jean Cayrol, le comte, qui venait de mourir. Alors ce fut une joie étrange parmi toutes ces victimes qui l'attendaient et qui le reconnurent. Cet essaim de pauvres filles assassinées se pressa en tumulte autour du comte décédé. Le murmure grandit et l'on eût pu entendre dans le vent qui passait « À l'enfer ! À l'enfer !» Dieu sait que l'âme de Cayrol n'avait guère besoin d'aide pour tomber comme un plomb tout au fond de l'enfer. Mais comme elle s'acharnait, les âmes vengeresses, contre le réprouvé, une autre voix, plus douce que la musique céleste, parla de miséricorde. C'était l'âme de Marie qui gardait l'amour immortel. Mes enfants, elle était seule, contre toutes. Mais Louise et Madeleine, mais Anna et Marguerite, avaient été surprises par la dernière heure. Chacune d'elles portait bien quelques petits péchés sur sa conscience, tandis que Marie, la sainte, n'avait pas une souillure à sa robe nuptiale. Marie était, à elle seule, aussi forte que toutes les autres ensemble. Et les voilà qui s'envolent, ces âmes, franchissant l'espace, les unes tirant vers le lieu de l'éternel supplice, et Marie, toute seule, essayant d'entraîner vers le ciel l'âme coupable de son époux. Comme elles ne gagnaient rien les unes sur les autres, elles n'allaient ni vers l'enfer ni vers le paradis. Mais entre le paradis et l'enfer, il y a le purgatoire. À la porte du purgatoire, un ange veille, et l'ange dit « Ces deux âmes ne sont pas pour moi. L'une est damnée, l'autre est élue. » À quoi Marie répliqua « Ouvrez, bon ange, et recevez-nous tous les deux. » « Enfant, ajouta la bonne femme, prenez du froment qui est blanc et du sarrasin qui est noir. Vous ferez du pain bis, ni noir ni blanc. La sainte et le damné furent reçus au purgatoire. » 6. L'horloge lointaine du bourg de Saint-Vincent sonna, je ne sais plus quelle heure, minuit peut-être, si l'horloge savait son métier. Des nuages légers passaient au ciel, la lune se cachait derrière la grande tour noire, dentelée et déchiquetée. La brise qui se levait chantait dans les saules du pâtisse. La mère Gotte étendit sa main maigre vers la tour et secoua lentement la tête. Il n'y eut pas un gars et pas une fille qui ne crut voir en ce moment glisser autour des créneaux, comme de blanches vapeurs, les âmes des épouses de Cayrol. Puis le rouet tourna de nouveau en grinçant, et la petite Catherine, toute tremblante, alla fermer les volets pour ne plus voir et pour ne plus entendre Anna, Madeleine, Louise, Marguerite et Marie, qui passaient et qui pleuraient au dehors, dans le brouillard de minuit. Paul Féval.